RCF.
Les Philippines sont un archipel d'Asie, fort lointain pour nous. Aujourd'hui, je reçois une bourguignonne, Laurence Ligier, eh bien pour qui les Philippines, en fait, ne sont pas si lointains que ça, sont même très très proches. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Alors, d'où vous vient cet attachement aux Philippines? Comment votre relation avec ce pays a-t-elle commencé?
Je vais vous dire, la vérité, c'est un pur hasard. En fait, j'étais très jeune, j'étais étudiante en droit, j'avais jamais voyagé et je voulais découvrir un pays sans pour autant partir en tant que touriste sur une plage. J'avais un ami qui était parti en mission humanitaire aux Philippines avec une petite association qui était pas en Bourgogne mais sur Rodez. Et donc, j'ai contacté l'association qui m'a envoyé aux Philippines parce qu'il y avait un projet, une mission humanitaire. Donc, vous voyez, j'ai découvert mon premier pays à l'étranger en traversant tous les continents à 12 000 km de la France, puisque les Philippines se trouvent
ça
en Asie
loin,
du Sud-Est, voilà. Et porte à porte 32 heures.
Oui, voilà. En avion, bien en sûr, avion. En prenant plusieurs avions.
C'est ça. Hein.
Voilà. Et c'était pour faire quoi?
Alors, à l'époque, je suis partie avec un groupe de Français pour construire un atelier de tissage de fibres d'ananas dans une communauté rurale à 1 heure de Manille, 1 heure de la capitale, donc en plein milieu de la forêt.
Forêt tropicale?
Tropicale, chaud,
oui.
Humide, oui.
Oui, donc un changement complet.
Total, avec un autre dialecte, enfin une autre langue, mais même dialecte, et puis une culture très très différente de la
C'était
nôtre.
C'était même pas de l'anglais.
C'était pas de l'anglais puisqu'on était avec des femmes qui ne parlaient pas l'anglais, qui ne parlaient pas non plus le tagalog, qui est la langue nationale, mais qui parlaient l'aklanon, évidemment que je ne comprenais pas, mais oui. Tout l'intérêt de découvrir.
Et votre rôle c'était quoi alors à l'époque?
Alors, avec le groupe de Français, on a participé à la construction de cet atelier de tissage. Donc, on a mis nos bras au service de la communauté des ouvriers philippins. Donc, on a fait du béton, de la peinture et pendant un mois. Vous voyez, on n'avait pas grande compétence, que j'étais très jeune ainsi que les
alors,
autres.
Alors, quel âge vous aviez?
J'avais à peine 20 ans.
Voilà. Et alors, donc, vous disiez, vous étiez étudiante en fac?
J'étais étudiante en droit à Dijon.
Oui.
Et j'ai eu l'opportunité de partir pendant les mois d'été.
Alors, vous vous orientiez comment? Vous faisiez droit pourquoi? Vous aviez une idée là déjà ou pas du tout?
Oui, j'avais une idée, je voulais être juge pour enfants à l'époque.
Oui,
donc
oui.
Donc déjà, j'avais l'envie de défendre des enfants, vous voyez.
D'accord.
Et je suis partie pour me former, pour apprendre, pour découvrir une autre culture, pour voyager. Et puis, quelque part, je suis jamais revenue.
Alors, qu'on comprenne bien, vous êtes née à Chalon-sur-Saône.
Voilà.
Oui.
J'ai fait mes études jusqu'au lycée à Chalon, puis
un bac
D, scientifique, oui. Et puis je suis venue à Dijon pour des études de droit jusqu'à la licence.
Vous avez dit vous aviez jamais voyagé si loin, hein, c'était tout à fait nouveau. Vous étiez quel genre d'adolescente, de jeune fille?
J'étais assez difficile. J'avais toujours eu beaucoup de caractère.
Oui.
Un petit peu solitaire, assez passionnée, et en tout cas quand j'avais envie de quelque chose déjà, mais déjà bébé, déjà petite, oui. je faisais en sorte d'y arriver.
Du tempérament donc déterminée, voilà. Mais ouverte, curieuse.
À l'époque peut-être pas.
Pas tant que ça.
L'envie d'aller loin et,
oui.
Et de peut-être de me trouver. Hein. On ne sait pas quand on voyage comme ça, on va à la rencontre de l'autre, mais aussi de soi-même.
Voilà. Alors vous reprenez après cette première expérience vos études à Dijon,
oui.
Et puis vous y retournez.
Oui, alors comme ça m'a plu, j'ai à nouveau fait une mission l'année d'après où là. Avec d'autres bénévoles, nous avons construit une salle de classe dans une école publique sur la même île. Et j'ai eu la chance de rencontrer la coordinatrice d'une association philippine qui sans doute m'a repérée parce que j'étais pas trop avec les Français, avec le groupe à jouer aux cartes le soir, mais beaucoup plus avec les familles philippines, les mamans, les enfants, à m'intéresser à leur culture. Et qui m'a proposé une mission d'un an en bidonville dans une ville voisine. En immersion totale, pour le coup, là, avec d'autres volontaires philippins et des familles philippines.
Là, on passe à une autre dimension.
Tout à fait. J'ai pas dit oui tout de suite, hein, parce que je devais rentrer en France.
Il y avait vos parents,
étudiante.
Là.
Voilà.
Ça devait pas être évident pour eux, là, quelque chose comme ça.
Non, parce que j'ai donc annoncé que j'allais suspendre mes études pour faire cette mission, parce que pour moi, je trouvais que c'était un privilège pour une jeune fille pas vraiment qualifiée à l'époque, hein, de faire cette mission en bidonville pour un programme d'éducation pour les enfants des rues avec d'autres Philippins. Voilà, donc j'ai annoncé la couleur. Évidemment, ça a été difficile puisque bon, déjà les Philippines à l'époque c'était connu comme assez dangereux. Il y avait des coups d'État, tremblements de terre.
Puis vous étiez jeune, hein, une fille en
jeune.
Plus.
J'ai dit que je suspendais mes études, mais que j'allais les reprendre. Mais quand on est parents, on se pose
soucis.
La question, oui. et que j'allais partir un an quand même. Oui. Et à l'époque, pourtant c'est pas si lointain, mais il y avait pas Internet, pas de téléphone
pas
portable,
de
pas de Skype. voilà, il y avait que éventuellement un fax quand on trouvait un fax. Hein, donc. Oui. Ça voulait dire pas de nouvelles pendant plusieurs mois.
Oui, vous avez pu le faire quand même, vous êtes partie un an.
Voilà, je suis partie un an dans la communauté rurale où j'étais au début, et puis j'ai été placée dans une famille en bidonville, donc pour faire cette mission auprès des enfants des rues.
Vous faisiez quoi exactement là ?
Alors, on identifiait les enfants dans la rue avec les services sociaux, et on mettait en place avec l'école publique aussi, des sessions d'éducation, de lecture, pour ces enfants, pour qu'ils aient aussi accès au minimum, quoi.
Oui,
pour
alors,
apprendre.
Ça vous a certainement beaucoup marqué, cette expérience, parce que ça devait être pas commode.
Ça m'a marqué parce que j'ai vu des enfants dès le plus jeune âge, même des bébés, même des familles dans la rue, sujets à évidemment toutes sortes de maltraitance, d'exploitation, de prostitution, des enfants qui vivaient dans les poubelles, qui triaient le fer, le bois, le verre pour le revendre, pour survivre eux déjà et puis leur famille. Donc j'ai moi qui viens d'un milieu plutôt privilégié, j'ai été marquée par
ça se coud, hein,
par ce que j'ai vu. Oui.
Et vous avez eu la force de se dire bon bah on y va.
Ah bah oui, à partir du moment où j'avais déjà fait le pas de suspendre mes études et d'aller au bout du monde, de vivre dans des conditions difficiles puisque je vivais en bidonville comme eux. Oui, je me suis donnée à fond pour faire cette mission à bien et ne décevoir personne et essayer avec mes peu de connaissances d'apporter quelque chose.
Voilà, alors cette année arrive à son terme, qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Eh bien, les Philippins avec qui j'avais travaillé, c'est-à-dire les services sociaux, la police, les familles, m'ont dit « bon ben voilà, t'as terminé ta mission, tu as vu nos conditions de travail, tu as vu les enfants dans la rue, maintenant que tu rentres dans ton pays dit riche, tu pourrais nous aider à lever des fonds pour faire plus, faire mieux, parce que nous on a envie d'aider ces enfants, mais on n'a pas les moyens. »
Oui, mais là vous avez pas dit « attendez, j'ai pas fini mes études, vous avez vu, je suis une fille, je suis toute jeune.
» J'ai pas dit ça, mais parce qu'il y avait beaucoup d'espoir, mais j'ai bien réfléchi, et surtout que je ne m'en sentais pas forcément compétente, parce que quand vous êtes étudiante en droit, vous n'apprenez pas à lever des fonds. Et puis, je me suis dit que personne allait me suivre dans cette aventure, donc j'ai pas promis, j'ai dit que j'allais essayer de convaincre des personnes de m'aider et de les aider indirectement.
Oui. Donc là, vous avez pas dit non, mais vous avez dit, attendez, il faut qu'on voit comment ça peut se faire.
J'ai dit, je vais essayer.
Oui, d'accord. Donc, vous êtes rentrée en France.
Donc je suis rentrée en France, là j'avais bien en tête d'abord ce que j'avais vu, c'est-à-dire des vrais besoins, après ce que j'avais entendu, un appel.
Oui, un appel par les Philippins.
Voilà, et ça a été vraiment déterminant pour moi. Jamais j'aurais eu la prétention de dire maintenant je repars aux Philippines créer un projet parce que j'ai envie ou parce que je pense que j'en suis capable. Non, vraiment c'est parce que c'était un appel des Philippins, je me suis dit que j'allais essayer, et pour essayer il fallait que je me forme, parce qu'encore une fois en droit j'avais pas les compétences, et donc j'ai prévenu mes parents à nouveau que j'allais réorienter mes études pour apprendre à monter une étude de faisabilité, un plan de financement, rechercher des sous, communiquer sur un projet, parce que c'était ça ma nouvelle mission, on va dire, et
donc
qu'il fallait que je mette tous mes...
Vous changez d'orientation, si je comprends bien.
Voilà.
Tout bascule en fait là.
Oui, mais avec dans ma tête un projet clair. Donc moi, j'étais sûre de ce que je voulais faire. Après, bon, il faut trouver la bonne école. On arrive parfois trop tard pour le concours d'entrée. C'est ce qui s'est passé. Donc en attendant, j'ai fait un doc de sociologie et ethnologie à Lyon, là, pour le coup, parce que l'école que je voulais faire, qui est l'école 3A, qui est une école internationale de commerce et de développement qui forme à des métiers d'administrateurs, de coordinateurs d'associations humanitaires, et pas que, mais enfin en tout cas qui forment à travailler dans les zones du Sud, Amérique latine, Afrique, voilà. Asie.
3A, ça veut dire, oui, Amérique, Afrique, Asie, d'accord.
Voilà, où on apprend ce dont j'avais besoin, des cours de gestion, de marketing, communication, de langue.
Il faut déjà savoir que ça existe et où ça se trouve. Hein.
Tout à fait.
Voilà, donc là vous avez pu rentrer après dans cette école.
Voilà, donc il y a eu un petit concours. Moi, je suis arrivée, d'abord j'avais déjà une licence de droit, un an de terrain aux Philippines, un doc de sociologie, donc j'ai pas voulu rentrer en première année. C'est une école qui se fait en 4 ans. Et puis j'avais surtout beaucoup de détermination pour aller au bout d'un projet professionnel, et ça j'ai annoncé la couleur dès le début à l'administration. Et même aux profs, enfin, moi j'ai dit je vais faire cette école qui est payante, mais pour
dans
faire ce
but.
Projet. Oui,
voilà.
Il faudra m'aider. Donc bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que dès le départ, sans doute parce qu'ils m'ont senti déterminée, bah, tout le monde m'a aidée en fait, et encore maintenant. Et même mes amis de promo de l'école, parce que j'ai fait 2 ans du coup sur 4, m'aident encore et sont eux-mêmes donateurs.
Voilà. Et puis maintenant, avec le recul, vous pouvez dire, c'était vraiment indispensable. Il fallait faire ça.
Ah oui, oui, oui.
On se lance pas dans quelque chose comme ça, sans se former, en fait.
Tout à fait. L'humanitaire, c'est pas un métier en soi. Il faut se former. Si possible, avoir un vrai métier. Bon, ça dépend dans quelle mission on part, hein. Si on part en urgence, il faut être médecin, logisticien, plombier, je ne sais pas, mais il faut avoir un métier. Et si on part, comme moi, sur des missions de développement sur du long terme, il faut être capable de mettre en place un projet, de le gérer, de coordonner une équipe et tout ça, ça s'apprend. Hein. On part avec le grand cœur, ça suffit pas.
Ça suffit pas. Non. On part pas comme ça sur un coup de tête. On se pose et on fait les choses tranquillement et puis surtout sérieusement.
Hein. Bah oui, parce que aider l'autre c'est très prétentieux. Alors sans compétences encore plus. Donc oui, faut se former.
Alors on fait une petite pause musicale. Vous nous avez apporté une chanson.
Oui.
Chanté par une petite fille des Philippines.
C'est ça, oui. Les Philippins chantent beaucoup et souvent des chansons à thème, porteuses d'espoir, et comme cette chanson. Ouais.
En anglais ?
En anglais, oui.
We are the children of yesterday's dream. We are the promise of the future we bring, waving the banners of love to all, to every nation, the rich and the poor. We are the world of the restless and young, and we need a hand to guide us, helping each other.
Sur RCF en Bourgogne, c'est Laurence Ligier qui nous raconte sa découverte des Philippines et comment sa vie en a été changée. Donc, en 97, vous fondez une association qui s'appelle Caméléon. Pourquoi ce nom ?
Parce que je cherchais un nom symbolique. En l'occurrence, le caméléon est un animal qui est connu pour son adaptation à son environnement, son changement de couleur. Et comme les jeunes filles qui sont référées chez nous par les services sociaux suite à des maltraitances, des abus sexuels, après 3-4 ans dans nos centres, changent, s'adaptent à un nouvel environnement, changent de vie et même changent physiquement d'apparence. Donc c'était un peu ça, l'idée du caméléon qui avance doucement, sûrement, qui bascule parfois et qui s'adapte.
Voilà, parce que cette association que vous fondez, quelles sont ses actions ?
Alors l'association Caméléon, je l'ai créée puisqu'il n'existait pas de structure d'accueil pour les jeunes filles et que c'était donc une demande des Philippins.
Oui.
Il y avait des filles dans la rue. en minorité par rapport aux garçons, et quand il y en avait, on savait pas comment les aider, dans quel centre les mettre, où les scolariser. Donc l'association vient en aide à ces jeunes filles, et il se trouve que je me suis vite rendu compte que la majorité des enfants qui étaient référés chez nous par les services sociaux étaient victimes d'abus sexuels, et à 65% des victimes d'inceste. Donc Caméléon, parce que cette prise en charge est compliquée, longue, onéreuse, puisqu'on intervient à tout niveau, s'est spécialisée dans l'encadrement, l'accompagnement, la réhabilitation et la réinsertion de petites et jeunes filles victimes d'abus sexuels.
Alors, entre quel âge et quel âge ?
L'âge d'admission dans les maisons d'accueil, c'est 5 ans à 16, à 17 ans. Mais on les accompagne, et ça, ça fait partie vraiment de la particularité de Caméléon, sur la durée, jusqu'à ce qu'elles terminent leurs études supérieures et jusqu'à ce qu'elles soient indépendantes financièrement, c'est-à-dire que les plus âgées ont 24 ans.
Là, vous avez combien de maisons d'accueil ?
On a 2 maisons d'accueil, chacune on a 25 filles dans chacune des maisons d'accueil, et on a des résidences étudiantes pour les grandes sur la ville près des universités, et puis des chambres d'étudiantes pour en tout plus de 110 jeunes filles.
Donc dans ces maisons, elles sont vraiment prises en charge pour se reconstruire, et elles restent combien de temps à peu près ?
Elles restent en moyenne 3 à 4 ans dans les maisons d'accueil, et après, le temps de leur scolarité, elles sont placées soit dans leur famille naturelle, ce qui est la plupart du temps comme ça, dans leur famille, oui, quand il n'y a pas de danger, ou dans des familles d'accueil, ou dans des chambres d'étudiantes, ou dans nos foyers.
Parce qu'il y a tout un travail à faire aussi au niveau des familles.
Oui, à partir du moment où l'enfant est référé chez nous, on travaille avec une personne identifiée au sein de sa famille. Si c'est les parents, très bien, mais c'est pas toujours le cas, puisque souvent c'est le père qui abusait de sa fille. Donc on travaille avec une sœur, une tante, une grand-mère, pour préparer l'enfant à réintégrer en fait sa famille.
Ouais, parce que souvent les mamans sont pas là.
Les mamans sont pas là, ou plutôt du côté du père. Et là, on met un certain nombre d'années avant de rééquilibrer la situation.
Oui, il y a tout un travail aussi d'éducation à la parentalité. Il faut respecter les droits des enfants.
Oui, en prévention, déjà, on essaye de parler des droits de l'enfant, des lois en matière de protection de l'enfance. Et au niveau des parents, oui, on leur rappelle quelles sont leurs responsabilités, et on forme les enfants à leurs droits, pour que quand elles réintègrent leur famille et la société, elles sachent ce qui est normal, ce qui est pas normal, et
qu'elles peuvent dire non.
Voilà.
Voilà. Et alors là, donc, on comprend, il y a la scolarité, il y a un accompagnement psychologique, mais il y a plein d'activités, en fait.
Oui, d'abord, il y a une aide médicale, parce que certaines sont blessées quand elles arrivent, puis une aide psychologique, voire psychiatrique, une aide scolaire, puisqu'elles sont toutes scolarisées grâce au parrainage scolaire, avec des parrains du bout du monde qui les envoient à l'école. Donc, dans des écoles publiques, ça, c'est un choix de notre part de les mélanger avec d'autres enfants et pas de les laisser au centre. Et puis, des activités extrascolaires qui leur permettent de prendre confiance en elles, de se reconstruire, de développer leurs talents, que ce soit par le chant, la danse, le sport, le cirque, la musique, les ateliers d'art.
Voilà, plein d'activités, en fait, qui leur permettent de reprendre un petit peu possession de leur corps, en quelque sorte.
Voilà, de prendre confiance en elles, et de faire confiance en l'autre aussi. C'est
oui,
important.
Puis de voir qu'elles ont des talents.
Tout à fait.
Toutes,
oui,
hein, qu'elles peuvent en fait faire confiance. Puis il y a tout un accompagnement juridique aussi.
Oui, alors on est en procès contre leurs agresseurs, enfin dans les cas où elles ont porté plainte, parce que c'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est entre 3 ans et 12 ans, ça peut durer très longtemps, avec des avocats publics, et on prépare l'enfant ces séances devant les juges, qui sont souvent traumatisantes mais indispensables dans le processus de reconstruction personnelle.
Et puis là-bas, il y a toute une équipe. Hein, vous avez des Philippins qui,
oui,
participent, il y a aussi des étrangers, comment ça se passe ?
Oui, c'était un choix de ma part, après avoir passé 11 ans sur le terrain pour tout mettre en place, de me retirer et de laisser, on va dire, mon bébé, ce projet, et puis les filles dans les mains des Philippins, des professionnels, des assistantes sociales, des psychologues, des mères de substitution, des managers, pour qu'ils s'approprient ce projet et avec leurs compétences le gèrent, le développent. Et dans un souci de pérennité de l'institution, et je trouvais que c'était mieux que ce soit des Philippins au service de Philippins. Et sur des compétences que l'équipe locale n'a pas, effectivement, nous envoyons des bénévoles français ou autres nationalités qui partent sur des missions d'un mois à six mois, donc bénévolement, apporter un savoir-faire qui était demandé par l'équipe philippine, que ce soit des médecins, des infirmiers, des responsables, des gens qui font des études de faisabilité, des circassiens qui viennent donner des cours de cirque, des sportifs, des informaticiens.
Ça fait beaucoup d'adultes, en fait, pour ces 50 jeunes filles.
Il y a plus que 50 jeunes filles. Il y a effectivement dans les maisons d'accueil 50 jeunes filles, plus à l'extérieur encore 52-53 filles. Oui. Plus on a un gros programme de parrainage scolaire pour des garçons et des filles dans les villages qui sont autour. Des centres. Donc voilà. En tout, on a plus de 410 enfants à charge. Donc 35 salariés philippins et plus d'une quarantaine de bénévoles qui viennent, pas tous en même temps bien sûr, tout au long de l'année sur des missions, comme je l'ai dit, de 1 à 6 mois.
Une belle équipe.
Une belle équipe aux Philippines. En France, on est 4 salariés à Paris et plus d'une centaine de bénévoles aussi qui nous aident. Alors là, pour le coup, à lever des fonds, à trouver des parrains, à communiquer sur l'association, à faire des événements, la traduction.
Le financement, faut le trouver.
Oui, Caméléon, ça coûte cher puisque donc on vient en aide à ces enfants qu'on prend en charge totalement. La responsabilité nous incombe et il faut faire tourner l'équipe, faut donner à manger à ces petites filles, faut les envoyer à l'école.
Et c'est pas l'État philippin qui vous subventionne là.
Malheureusement, non, on n'a pas de fonds publics ni en France puisque les Philippines ne sont pas dans les pays prioritaires aidés par la France, ni aux Philippines. On va dire, on travaille avec les services sociaux, les autorités locales. Pour avoir toutes les autorisations, bien sûr, de prendre en charge ces enfants.
C'est nécessaire.
Et c'est très important pour faire le suivi des enfants une fois réintégrés dans leur communauté. Mais on n'a pas d'aide financière.
Donc, il vous faut des dons.
Il nous faut des dons, il nous faut des parrains, il nous faut des bénévoles à Paris, aux Philippines, à Chalon-sur-Saône, puisque le siège social est à Chalon-sur-Saône.
Et donc, à Dijon.
Et à Dijon, bien sûr.
Voilà, on va encore entendre la petite fille des Philippines qui chante en anglais. Cette belle chanson. Laurence Ligier est l'invitée de ce Vie à cœur sur RCF en Bourgogne. Elle a fondé et elle dirige l'association Caméléon qui vient en aide à des jeunes filles des Philippines. Alors, quelle est votre mission aujourd'hui? Vous nous avez dit que vous êtes à Paris?
Oui, je suis à Paris, mais je vais encore beaucoup aux Philippines. À Paris, je fais des conférences, je vais voir les entreprises, les philanthropes, les gens qui veulent nous aider. J'essaye de mobiliser le plus grand nombre pour financer, parrainer, aider bénévolement. Et puis, quand je repars aux Philippines, c'est-à-dire 2 à 3 fois par an quand même, sur des périodes de 1 mois à 2 mois, je travaille avec l'équipe locale au développement de nos projets et essayer de répondre à leurs besoins au mieux.
Alors, les obstacles certainement ont été nombreux, ça n'a pas dû être toujours facile. Quels ont été les plus marquants et comment surtout avez-vous trouvé la force de les surmonter?
Les obstacles, c'est au début, parce que j'étais très jeune et pour me faire confiance, c'était difficile. En France, personne connaît les Philippines, il fallait que je trouve beaucoup d'argent. Et heureusement, j'ai eu des personnes qui m'ont fait confiance, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit les professeurs de l'école 3A, des camarades, enfin Sœur Emmanuelle en France et son association, et puis en Belgique des gens formidables et j'ai pu mettre en place, trouver un terrain, démarrer, construire, me former une équipe, tout ça parce qu'il y a eu des gens qui ont eu, je sais pas, la foi, confiance, mais des, je sais pas pourquoi. Moi, je les remercie parce que sans eux, j'aurais jamais pu démarrer.
Donc des rencontres vraiment déterminantes qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu. Et alors, vous savez que la signature de la radio RCF, c'est maintenant la joie se partage. Pour conclure, j'aimerais bien que vous nous partagiez quelques-unes de vos joies d'aujourd'hui.
Oui, il y en a beaucoup parce qu'en fait, aider les enfants, c'est très enrichissant, on reçoit énormément. Et bon, les Philippins, c'est un peuple qui sourit tout le temps, qui est tout le temps joyeux, positif, malgré les catastrophes, que ce soit naturelles ou les traumatismes que les jeunes filles ont vécu. C'est vraiment mon moteur. Par exemple, il y a une jeune fille qu'on a suivie, qu'on suit toujours d'ailleurs, qui est arrivée chez nous, qui ne connaissait pas son nom, qui savait pas d'où elle venait, qui a été, comme toutes les autres, violée, abusée, qui était même psychiatriquement parlant, qui avait vraiment des problèmes, et je savais pas si on arriverait à l'aider. Et puis, petit à petit, elle s'est stabilisée. Elle a fait elle aussi du cirque comme toutes les autres filles, parce que on utilise le cirque en outil de thérapie. On a des très bons résultats. Elle a choisi le clown derrière peut-être son masque et le maquillage. Elle s'est métamorphosée et elle a pris confiance en elle. Elle s'est expliquée, elle s'est exprimée et puis elle a terminé ses études. Et ma grande joie, c'est que elle est à présent, elle a eu son diplôme de sage-femme. Elle met des enfants au monde, c'est très joli. Et puis elle a retrouvé sa famille au bout de 10 ans à travers Facebook, bon, les moyens de communication actuels. Et c'est une jeune fille, une jeune femme hein, maintenant parce qu'elle a 22 ans, très épanouie. Et elle m'a serré la main en disant, en gros, le contrat conclu, on est arrivé au bout toutes les deux, j'étais pas si folle et tu vois, maintenant je suis heureuse et je souris, et je mets des enfants au monde. Et pour moi ça, évidemment, je peux pas arrêter ce que je fais, puisque on sauve des vies, on inscrit comme ça des belles histoires, on transforme ces enfants et quand je dis on, évidemment avec toute mon équipe. Et ça c'est magnifique.
En fait, votre association, elle aide ces enfants à se relever, à se remettre debout. Oui. Vous leur redonnez en quelque sorte la vie.
C'est ça. Je pense que sans Camélion, elles auraient sombré dans la folie ou peut-être elles ne seraient plus là, puisqu'il y en a certaines qui étaient en dépression ou qui, si elles n'avaient pas été protégées par l'association, auraient été tuées. Donc effectivement, on sauve des vies et ça, même pour une vie, je l'aurais fait. Donc pour plus de 800 vies maintenant qu'on a suivies, évidemment, c'est un moteur. Exceptionnel et j'ai eu beaucoup de chance.
Voilà, c'est très beau. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je rappelle vraiment que votre association Caméléon recherche des parrains. Vous m'avez dit que vous en avez besoin de plus de 100. Là, c'est vraiment urgent, vraiment important. C'est pour financer la scolarité des jeunes filles aux Philippines. Ces jeunes filles qui sont abîmées, qui sont en difficulté. Moi, j'invite vraiment les auditeurs qui voudraient en savoir plus et qui voudraient aider votre association à consulter le site caméléon-association.org. Vous verrez, on y trouve tout, c'est très bien fait. Et on voit ces jeunes filles souriantes qui font du cirque et qui sont merveilleuses. Et puis on vous voit aussi avec votre sourire. Merci Laurence,
merci.
Au revoir.
Merci.